Vous êtes sur RTL.
Salut Pascal.
RTL Midi, Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Deux heures d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. Aujourd'hui, c'est l'info avec Agnès Bonfillon jusqu'à 13h. Bonjour, chère Agnès.
Ah bonjour, Pascal. Bonjour à tous. À la une, la crise très explosive en Guadeloupe. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron en personne il y a quelques instants. Des mots de plus en plus forts également pour parler du Covid. Un peu partout en Europe, les autorités tentent de provoquer un électrochoc. Et puis, la reine Elisabeth II était assez en forme hier pour se rendre au baptême de deux de ses arrière-petits-enfants. Et ça rassure.
Il y aura donc deux débats à partir de 12h40. Évidemment, nous reviendrons sur la situation en Guadeloupe. Nous essaierons de comprendre les raisons de la colère. Et puis, est-ce l'incident de trop, le jet de bouteille sur Dimitri Payet lors du match Lyon-Marseille, l'arrêt de la rencontre? Cela va-t-il suffire à faire bouger les lignes?
Et c'est d'ailleurs la question du jour sur RTL.fr. Jet de bouteille, faut-il arrêter automatiquement les matchs? Vous dites oui à 88%, non à 7%. La météo, bonjour Louis Bonan.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Encore beaucoup de nuages dans le sud, en revanche un peu plus d'éclaircies au nord.
Oui exactement, alors tout est relatif, hein. C'est vrai que dans la moitié sud on devrait conserver un ciel très nuageux cet après-midi, sauf autour du golfe du Lion où avec l'aide d'un peu de Mistral et de Tramontane le ciel se dégagerait, meilleur des nuages, quelques bruines, voire quelques flocons à partir de 700 ou 900 mètres sur le massif central, sur les Alpes ou encore le Jura, puis au nord de la Loire, dans le nord-est également, là on devrait retrouver quelques éclaircies, alors plus belles effectivement sur l'île de France, tout près des frontières du nord en cours d'après-midi. Mais attention au vent de nord-est assez fort, jusqu'à 70 km/h, qui va renforcer l'impression de froid parce qu'on ne dépassera pas les 5 à 7 degrés cet après-midi dans le nord-est, 7 à 10 degrés dans les autres régions, mais avec le vent, ça sera moins agréable, et 15 à 17 degrés quand même près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis, et à tout à l'heure 13h pour une météo complète.
RTL Midi.
Revenons tout d'abord sur ces incidents hier durant le match Lyon-Marseille. Enfin, début de match plutôt, car celui-ci n'aura duré que 4 minutes avant que Dimitri Payet ne reçoive une bouteille d'eau sur la tempe. Plusieurs réunions sont prévues. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
Une volonté de réagir très vite à ces violences?
Oui, pour mettre fin à cette escalade. Hein. Incident depuis le début de saison à Montpellier, à Nice, à Lens, à Marseille, Angers, Rennes, maintenant Lyon. Alors à la Ligue, une commission de discipline se réunit en urgence aujourd'hui pour prendre de suite des décisions à titre conservatoire, très probablement un huis clos partiel ou total du Groupama Stadium. Le dossier sera ensuite mis en instruction. Voilà pour le sportif. Sur le plan politique, le ministère de l'Intérieur s'empare également de l'affaire. Réunion de crise demain à Beauvau. Gérald Darmanin recevra Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, Roxana Maracineanu, sa déléguée au sport, ainsi que les représentants de la Ligue de football professionnel et de la Fédération française de football.
Et que peut-on attendre de cette réunion, Philippe? Quelles nouvelles mesures peuvent être prises?
Alors, ça peut se limiter à une simple remontée de bretelles, entre guillemets, des instances, des clubs, avec injonction d'appliquer ce qui existe déjà, durcir les sanctions, des interdictions de stade plus nombreuses, par exemple, une obligation d'équipement des infrastructures avec des filets de protection dans les stades. Mais plus largement, c'est la question des supporters et précisément des ultras qui devient centrale. Au-delà des sanctions individuelles, le ministre de l'Intérieur peut tout à fait dissoudre des associations. Ça avait été le cas, on s'en souvient, en 2008 et 2010, où Michel Alliot-Marie puis Brice Hortefeux avaient agi notamment au Paris Saint-Germain. S'en était suivi un plan d'assainissement des tribunes avec la disparition pure et simple des ultras au Parc des Princes.
Le paradoxe, c'est que hier soir, c'est un jet isolé. C'est pas quelqu'un qui appartenait à une association, si j'ai bien suivi ce dossier.
Alors, ce sera à vérifier, mais c'était au sein d'un endroit dans le stade où se regroupent les associations de supporters.
Vous viendrez avec nous à 13h pour en parler avec les auditeurs?
Tout à fait.
Eh bien, merci.
Merci, Philippe. Le mari de Delphine Jubilar reste en prison. Ses avocats avaient une nouvelle fois demandé sa remise en liberté la semaine dernière. Cédric Jubilar, je vous le rappelle, est mis en examen pour le meurtre de sa femme. Le corps de cette dernière n'a jamais été retrouvé, mais les juges avancent un faisceau d'indices graves et concordants. Les violences conjugales en hausse l'année dernière. Elles ont fortement augmenté durant le premier confinement, plus 10% selon des chiffres publiés ce matin par le ministère de l'Intérieur. En tout, 160 000 personnes, en majorité des femmes, ont été victimes de coups, d'agressions sexuelles ou de viols de la part de leurs conjoints. Concernant la situation explosive en Guadeloupe, Emmanuel Macron lance un appel au calme. Le chef de l'État était ce matin en déplacement à Amiens. Écoutez.
Moi, je veux d'abord dire aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens que la nation, depuis le début de cette crise, est à leur côté. Notre priorité, c'est de continuer à convaincre que la vaccination est la meilleure protection. et ne rien céder aux mensonges, aux détournements d'informations et à la manipulation par certaines et certains de cette situation. Ensuite, il y a une situation qui est très explosive, qui est liée à un contexte très local, à des tensions qu'on connaît et qui sont historiques, et aussi à certains intérêts qui cherchent un peu à utiliser ce contexte et l'anxiété. Expliquer, 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 convaincre, 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 parce qu'on ne joue pas avec la santé. Et on ne peut pas utiliser la santé des Françaises et des Français pour mener des combats politiques. Et donc il faut que, dans le calme, le respect de chacun, on retrouve la quiétude et l'ordre public.
Emmanuel Macron, au micro de Vincent Derosier à Amiens pour Lille. Cela suffira-t-il à calmer les esprits? Écoutez Christelle, une habitante de la Martinique.
Ils n'ont pas le choix de se calmer avec tout ce qu'ils ont envoyé de Paris. Je pense que tôt ou tard, ils finiront par céder et que des vrais manifestants, en fait, ils pourront prendre la place et faire une vraie manifestation. Parce que là, maintenant, ce sont pas vraiment les vrais manifestants qui le font, en fait. Ce sont des jeunes qui n'ont rien à faire, qui s'amusent à tout saccager, à tout détruire, à mettre le feu un peu partout. Mais c'est parce qu'ils sont nus, ils n'ont rien à faire, je dirais. Ils profitent de la situation, en gros, pour faire leur bordel. Elle est très compliquée en ce moment, la vie. Il faut partir très tôt pour pouvoir être à l'heure au travail. Le matin, on part, il y a certains endroits qui sont barrés. Et le soir, en fait, ça se peut que les endroits qu'on a passés le matin qui étaient barrés, qui soient débarrés. Donc c'est comme si le matin, ils débloquent, mais le soir, ils rebloquent, en fait.
Des propos recueillis en Guadeloupe, évidemment, recueillis par Morad Djabari. Cette colère peut-elle embraser les autres îles des Antilles? En Martinique, un appel à la grève générale est lancé à partir d'aujourd'hui. En France, la montée de la cinquième vague est fulgurante. Avec cette phrase prononcée par Gabriel Attal hier, on voit que le gouvernement change de vocabulaire. À juste titre, Sophie Jousselin.
Alors si on parle des contaminations, oui, la courbe grimpe en flèche. La progression est de 80% entre les 7 derniers jours et la semaine précédente, avec une moyenne de 17 000 nouveaux cas quotidiens. Une très forte poussée chez les enfants. Il faut remonter à fin août pour trouver le même chiffre. Sauf que fin août, on était en pleine décrue du côté du taux d'incidence. Il grimpe fort également, il a doublé en une semaine.
Et est-ce que cela se ressent également à l'hôpital?
Oui, mais moins fort pour l'instant. D'abord parce qu'on le sait, il y a toujours un décalage de 2 à 3 semaines entre la hausse des contaminations et celle des admissions à l'hôpital, et un délai encore supplémentaire pour une répercussion dans les services de réanimation. Donc pour l'instant, il y a une hausse. Sur les 7 derniers jours, on a enregistré en moyenne 1000 nouvelles hospitalisations par rapport à la semaine précédente. Ça fait quand même plus 50%. Alors cette hausse va certainement s'accentuer dans les semaines à venir, mais le fort taux de vaccination dans le pays devrait quand même atténuer le nombre de formes graves, donc d'entrée à l'hôpital et en réanimation. Il y a actuellement 1300 personnes en soins critiques contre 6000 au mois d'avril.
Merci beaucoup Sophie Jousselin du service qualité de la vie de RTL.
Et pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire, le délai pour rembourser le report des charges va encore être rallongé.
Direction l'Autriche maintenant. Comme prévu, le confinement strict s'applique depuis ce matin. C'est la quatrième fois que la population doit adapter sa vie à la courbe épidémique. Valentin Boisset, vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Vienne. Vous vous trouvez devant une école, Valentin, et il y a du monde. Car on le rappelle là-bas, les établissements scolaires restent ouverts durant le confinement.
Oui, l'école est l'un des seuls motifs de sortie aujourd'hui. Alors les parents se retrouvent devant la grille verte. Leurs petits sont à l'intérieur pendant une heure. Ils vont discuter et parfois critiquer ce confinement. 9 parents me disent être au chômage partiel au moins aujourd'hui, le temps de s'organiser comme Dominique.
Bon, les écoles sont ouvertes, mais la plupart des gens sont fâchés. L'an dernier, nous avons eu 3 confinements et le gouvernement a dit c'est bon, il n'y en aura plus. Eh bien, c'est reparti.
Une jeune professeure d'anglais se faufile avec un cartable pour les plus petits. L'école est ouverte. C'est une bonne chose pour Bettina, mais pour les plus âgés, elle ne l'est plus et c'est ce qui l'inquiète.
L'école n'est pas fermée, enfin, pour l'instant, pour ceux qui ont entre 15 et 19 ans. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ils devront travailler chez eux, avec leurs parents, en télétravail. Je crois qu'à l'avenir, leur éducation se base sur un savoir amoindri.
Ce midi, le ministère de la Santé autrichien s'alarme. Le pic de la première vague en réanimation pourrait être dépassé d'ici la fin de semaine.
Le reportage de Valentin Boisset, l'envoyé spécial de RTL à Vienne. Et cette phrase, écoutez bien Pascal, cette phrase très marquante prononcée par le ministre allemand de la Santé ce matin.
Il est vraisemblable que d'ici la fin de cet hiver, chacun en Allemagne sera soit vacciné, soit guéri, soit mort. Cela peut sembler cynique, mais c'est comme ça.
Les mots très forts de Jens Spahn ce matin. À la fin de l'hiver, les Allemands seront vaccinés, guéris ou morts. La phrase ne va pas manquer de faire réagir.
Tout à l'heure, pourquoi pas avec les auditeurs.
5 morts, 40 blessés aux États-Unis. Le bilan reste provisoire après l'horreur. En pleine parade de Noël hier, cela s'est passé à Waukesha dans le Wisconsin. Une voiture a foncé dans la foule. Le conducteur a été interpellé. Reste à savoir maintenant, Lionel Gendron, si c'est un acte volontaire ou pas.
En tout cas, les images amateurs filmées au sol ou depuis les balcons semblent indiquer un acte volontaire, comme si le véhicule visait délibérément les participants. Mais pour l'instant, ce ne sont que des interprétations. Le jour n'est pas encore levé et la police n'a pas communiqué depuis hier soir. Ce qui s'est passé, ces cris de panique choquent les Américains dans cette période de fête où les parades ont lieu dans toutes les villes. Thanksgiving, c'est jeudi prochain. Angela était tout près de la scène hier soir.
J'étais inquiète pour les gens au sol, puis soulagée que mes enfants soient à la maison en sécurité avec leur père. J'espérais la même chose pour tout le monde, que personne ne soit blessé.
Les enquêteurs ont rassemblé les éléments, regardé les vidéos, analysé la voiture et surtout interrogé le suspect, car une personne a bien été arrêtée, ce que l'on appelle ici une personne d'intérêt. Une conférence de presse doit avoir lieu dans les prochaines heures.
Lionel Gendron, notre correspondant aux États-Unis. La reine Elisabeth était de sortie hier. Elle a pu assister au baptême de deux de ses arrière-petits-enfants. Marie Boueda, vous êtes à Londres pour RTL. Image furtive de la souveraine. Mais voir Sa Majesté se rendre à une cérémonie avec une tenue toujours aussi calorée, eh bien ça rassure.
Un chapeau vert clair et une veste assortie. Elisabeth II a été prise en photo en sortant de la chapelle de Tous les Saints à Windsor, assise à l'arrière d'un Range Rover. C'est la première image d'elle en dehors de son château depuis un mois. Elle a assisté à un double baptême, celui d'Auguste, fils de la princesse Eugénie, et de Lucas, fils de Zara Tyndall. Une décision de dernière minute, c'était important pour elle d'être présente, confie une source du palais. Les deux cousins ont comme deuxième prénom Philippe, en hommage au mari de la reine, mort en avril dernier. Depuis sa nuit à l'hôpital il y a un mois, repos forcé. Toutes ses visites officielles ont été annulées. La semaine dernière, elle a repris le travail, mais dans son château, où elle a accueilli un haut gradé de l'armée.
Merci beaucoup, Marie Boueda, à Londres pour RTL.
Une pause dans un instant, notre premier débat, après une soirée honteuse pour le foot français. La question, elle est peut-être rude et brutale, mais elle aurait le mérite d'être efficace. Faut-il dissoudre les associations de supporters, les associations ultra, qui sont à l'origine de tous les débordements quasiment depuis le début de saison? A tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi, avec Agnès Bonfillon et Pascal Pro.
La décision est vraiment incompréhensible, puisque comme l'auteur indépendant de ce geste a été incarcéré, il est en garde à vue maintenant. On pense que le match pouvait reprendre sans aucun problème.
Jean-Michel Aulas, le dirigeant lyonnais, qui ne comprenait pas pourquoi le match n'avait pas repris hier. Dimitri Payet touché par une bouteille d'eau à la tête au bout de 4 minutes de jeu. Le match donc qui ne reprend pas. A-t-on assisté hier soir à l'incident de trop? Celui qui va enfin faire bouger les lignes. Avec nous pour en parler, le député LREM de la Vienne, Sacha Houlier. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions de hooliganisme, auteur d'un rapport sur le sujet. Cette fois, que dites-vous? Il n'y a plus de temps à perdre, il faut alourdir les sanctions et très vite?
D'abord, ce que je dis, c'est que la bonne décision a été prise hier par l'arbitre, celle de ne pas reprendre le match. C'était une décision différente qui avait été prise il y a quelques mois à Nice, avec un simulacre de reprise et avec un match qui a été donné à rejouer. Et donc, d'abord, ça veut dire qu'on a tiré les leçons de la première fois où ça s'est réalisé. Ensuite, il aurait fallu déjà préparer mieux ce match, parce que comme à Nice, il n'y avait pas de filet de protection. Comme à Nice, les autorités qui ont organisé le match, le club qui reçoit et la préfecture, ont laissé des conditions qui ont pu entraîner ce genre de débordement. En revanche, pas comme à Nice, on a pu interpeller très rapidement l'auteur et lui aussi sera traduit devant les tribunaux. Rappelons que le président d'auteur a pris 1 an de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction de stade. Là encore, les sanctions individuelles sont prises. Et la dernière chose, c'est sur la commission de discipline après le match contre Nice, Nice-OM. On avait eu un match à rejouer. Et là, de ce point de vue-là, les sanctions sportives, disciplinaires n'ont pas été vécues comme à la hauteur, ou en tout cas, elles ont pu laisser croire que les circonstances pouvaient se reproduire. Puisque l'effet de jet de projectile sur un joueur, d'atteinte à son intégrité, et le même joueur, puisque c'est Dimitri Payet qui est l'objet d'une agression, il n'y a pas d'autre mot, eh bien, se sont reproduites. Et de ce point de vue-là, une sanction sportive, disciplinaire, doit être exemplaire et elle doit être prise dès ce soir.
Que chaque personne, Sacha Houlier, dans un stade, sache qu'au moindre incident, effectivement, une rencontre peut être annulée. C'est ça, finalement, la solution? C'est peut-être ça, la solution?
C'est la solution, et en plus, ça a l'avantage très clair de n'avoir besoin d'aucune modification, ni de la législation, ni de la réglementation. C'est possible en l'état. Et donc, c'est ce qui aurait dû être fait, je l'ai dit à Nice, c'est ce qui a été fait hier soir. Modulo quand même une longue période de suspension durant laquelle chacun ne savait pas ce qui allait se passer, alors même que pour les téléspectateurs, pour les supporters, pour les joueurs, pour la quasi-totalité de la population, la solution s'imposait comme une évidence, c'était l'arrêt de la rencontre.
Mais manifestement, il n'y avait pas un protocole qui était établi entre la Ligue nationale, entre l'arbitre et entre le club. La solution, ça pourrait être d'ailleurs match perdu. Au moins, ce serait clair, match perdu pour l'équipe, en l'occurrence, qui est fautive ou dont l'un des supporters est fautif. Mais si on essaye d'aller encore plus loin, le plan Le Prou au Parc des Princes était venu après la mort d'un supporter. Le plan Le Prou, c'était de dissoudre toutes les associations des supporters et de permettre que ces supporters reviennent, mais avec un placement aléatoire. Les supporters ne sont plus ensemble, donc il n'y a plus ces effets de violence. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller jusqu'à dissoudre toutes les associations d'ultra qui sont au cœur de tous les débordements depuis le début de saison ?
Bah absolument pas. Moi, ce qui a permis de faire progresser la situation dans les stades, c'est d'abord la création de l'instance nationale du supporterisme. Et d'ailleurs, elle n'a pas été réunie depuis deux mois, et depuis deux mois, on constate tous les débordements. Ensuite, la personne qui a été interpellée hier, elle ne faisait pas partie d'un groupe de supporters, selon les premières informations qu'on a recollées et qui sont parvenues jusqu'aux autorités publiques. Et puis, la dernière chose, c'est que sur le plan Le Prou, il y a effectivement une dissolution d'associations de supporters. Depuis, elles ont été recréées et avec une animation des tribunes qui a été reconduite avec une commercialisation des places qui permet le regroupement des supporters. Donc finalement, on a recréé ce qu'on avait dissous il y a de cela une dizaine d'années. Et de ce point de vue, viser les associations de supporters, ce serait viser à côté de ce que sont les vraies responsabilités sur les organisateurs des compétitions ou sur les sanctions individuelles prises contre les individus qui sont des délinquants.
Faire pression sur les clubs, est-ce que ce n'est pas la bonne solution, ne serait-ce qu'au niveau sportif? On enlève pas mal de points au classement, ça peut peut-être suffire pour certaines personnes?
Oui, d'autant que les clubs ont une obligation de résultat sur la sécurité, que par ailleurs, sur les fameux filets de protection, on les voit dans de nombreux stades, on les a même déployés sur les poteaux de corner. On a également des clubs qui discutent avec leurs supporters pour les inviter, pour les sensibiliser. C'était le cas sur le dernier OM-PSG où il y avait
un travail. Ça fait 25 ans qu'on discute avec les supporters. Quoi, c'est même pas les supporters, c'est les ultras. Hein. Les ultras, c'est un problème dans le foot aujourd'hui. C'est un problème de violence.
C'est votre avis que je ne partage pas, monsieur Pro.
C'est factuel, ce que je dis. C'est factuel, c'est à Nice, c'est à Bordeaux, c'est à Saint-Étienne, c'est souvent très compliqué. Ils font peser sur les dirigeants de club une menace, un climat souvent qui est très, très compliqué pour les dirigeants.
Et pourtant, les clubs, y compris comme le Paris Saint-Germain, les font venir
très encadrés. Oui, c'est une seule tribune au Parc des Princes.
Avec des outils légaux dont on dispose aujourd'hui, qui ne seraient pas parfois à revoir ou à recalibrer, mais qui en tout cas ne nécessite pas de modification fondamentale de la législation aujourd'hui. Et c'est les avancées que nous avons faites aujourd'hui pour prévenir les actes et pour prendre des décisions qui soient exemplaires, nous les avons prises dans le cadre de l'instance nationale du supporterisme.
Merci en tout cas, monsieur Houllier.
Merci à vous.
C'était intéressant de vous écouter. Puis vous êtes un spécialiste, on le rappelle, puisque vous avez fait un rapport sur ce sujet du hooliganisme. Vous êtes député de La République En Marche de la Vienne. Merci beaucoup. Il est 12h51. Nous allons partir pour la Guadeloupe.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Agnès Bonfillon et Pascal Praud.
Je ne sais pas si je vais pouvoir aller travailler, je ne sais pas si je vais travailler dans des conditions normales, pas normales. Je ne sais pas ce que je ne vais pas me faire agresser sur un barrage, enfin on ne sait rien pour le moment. C'est pas bon enfant pour le moment. Hein. Quand on vient dans la dégradation du bien public, c'est un peu difficile de défendre. On espère que ça va se calmer assez vite.
Un habitant en Guadeloupe, situation insupportable sur place, situation très explosive. Vous l'avez entendu, c'est Emmanuel Macron lui-même qui le dit. Pour en parler avec nous, Victorien Lurel, sénateur de Guadeloupe. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Vous ferez partie des élus qui rencontrent Jean Castex ce soir à Matignon. Quelles mesures, selon vous, monsieur le sénateur, pourraient faire revenir le calme sur l'île ?
Il est certain que la réunion de ce soir ne sera pas suffisante. parce que elle est pour le gouvernement un motif, si j'ose dire, une expression symbolique. Qu'il est ouvert à la discussion, puisque la première réponse a été celle du sécuritaire. On peut comprendre ça avec l'envoi de 200 membres des forces de police, plus 50 du GIGN et du RAID. Rester sur cette symbolique-là n'est pas très bonne. Il faut donc ouvrir symboliquement la discussion. C'est ce qui se fera ce soir. Mais ce ne sera pas suffisant. Pourquoi ? Parce que les syndicats, l'intersyndical commence à dire, nous n'avons pas délégué notre pouvoir de négociation à des élus. Donc les élus se trouvent entre deux feux, le gouvernement qui ne les écoute pas suffisamment et la base qui ne les reconnaît pas et qui remet en cause leur légitimité. Il y a là une démocratie un peu en panne et qu'il faut comprendre. Donc le gouvernement sera bien obligé d'ouvrir une négociation, non pas sur le pass sanitaire qui est devenu aujourd'hui un prétexte. Ce n'est pas le vaccin qui est le responsable des malheurs de la Guadeloupe. C'est un abandon des gouvernements successifs depuis une quarantaine d'années sur tous les services publics. Vous prenez le cas de l'eau aujourd'hui en Guadeloupe. En pleine pandémie, dans la partie sud de la Grande Terre, la partie plate de l'île, eh bien, il n'y a pas d'eau. Pour les gestes barrières, c'était un problème. C'est des trous d'eau qui durent depuis longtemps. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait ? Et depuis 5 ans, on plaide pour que l'État comprenne ça mieux, en se défaussant, en disant ce n'est pas notre compétence, ce sont les élus. Vous avez mal géré, débrouillez-vous, pardonnez-moi, démerdez-vous. Donc il faut 800 millions, ils ne mettent que 10 millions. Et ça prendra 25 ans avant de régler ces problèmes. Donc les gens
s'énervent,
la colère s'exprime.
Monsieur Lurel, vous êtes sénateur de la Guadeloupe. J'ai le sentiment qu'on ne peut pas parler de cette défiance sur le vaccin sans évoquer le chlordécone. Alors le chlordécone, il faut le dire, c'est un insecticide hautement toxique qui a été toléré en Martinique jusqu'en 1993, je crois.
Oui, on reconnaît l'histoire, mais je ne crois pas à ça, bon, monsieur.
Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de traumatisme qui existe avec le chlordécone et qu'il rejaillit sur le vaccin. Je me trompe?
Moi, je ne partage pas du tout cet avis. Depuis quelque temps, j'entends que si on refuse le vaccin, on refuse les... C'est des anti-vax qui disent ça. Moi, j'ai porté plainte en class action aux États-Unis contre Dupont de Nemours et Allied Chemicals. J'ai porté plainte ici, à Paris, en tant que président de région. Et on est parti civil. Il y avait personne derrière. Il a fallu, c'est vrai, attendre quelques années plus tard, une commission d'enquête et la mobilisation des associations. Dire que c'est à cause du chlordécone.
Je pose la question, parce que je l'entends comme une musique qui revient.
J'ai bien compris. Ah, mais oui, j'ai bien compris, c'est récurrent. J'ai bien compris. Moi, j'ose dire, même si ce point de vue est minoritaire, que ce n'est pas ça.
Votre point de vue est minoritaire, Didou?
Mais oui, je pense qu'il est minoritaire parce que tout le monde répète en boucle une histoire qui n'a pas été diagnostiquée, qui n'a pas été approfondie. L'État n'a pas fait les enquêtes sociologiques qu'il fallait, des enquêtes d'opinion pour savoir ce qui circule dans les têtes. S'il y a un motif pour lequel on refuse le vaccin, c'est que nous croyons fortement, tous les pays du Sud, et en particulier dans la Caraïbe, à la pharmacopée locale, aux plantes médicinales, à nos feuilles et à nos racines. Et vous avez trouvé des charlatans qui ont dit que, eh bien, il y a quelques en Guadeloupe, dont le zébapic, qui est une très bonne plante, à condition qu'il y ait des protocoles scientifiques pour le faire valider. Un vaccin suit un processus compliqué. Là, on a dit aux gens, prenez ça et vous serez protégés.
Eh bien, merci.
Et on ne leur a pas dit que c'était un complément et non pas un traitement alternatif.
Merci,
donc,
monsieur Lurel.
Globale, voilà.
Merci Victorin Lurel. Merci, monsieur le sénateur, d'avoir été avec nous. Ce sera très intéressant de vous avoir après la réunion ce soir avec Jean Castex à Matignon, merci d'avoir été avec nous dans RTL Midi.
Et on va pouvoir interroger tout à l'heure les auditeurs et pourquoi pas les auditeurs de Guadeloupe, même si avec le décalage, il est encore très tôt en Guadeloupe. Il doit être 6 heures de moins pour
8.
Le moment. Il doit être 7 heures du matin. 8 heures, me dit Ludovic van de Kerkhove, qui connaît toutes les horaires du monde entier. C'est normal puisque c'est le rédacteur en chef de cette émission. Il est tenu de connaître l'heure qu'il fait dans tous les pays du monde. 13h, 12h59, la pause. Et nous revenons pour parler football, notamment avec Philippe Sanfourchet tout de suite.
RTL Midi.